Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium. Attention, générique.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux.
Et oui, on joue, c'est sérieux, sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voies du scénarium. Je suis Seb, je suis aux commandes de l'émission pendant une heure, mais je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de Nolwenn. Ça va, Nolwenn ?
Oui, bonsoir. Ça va et toi ?
Bonsoir. Je suis également en compagnie de Romain.
Salut.
Ça va, Romain ?
Ouais, super. Bien rentré des Utopiales.
Ben ouais. Mais en fait, on a tous les trois été aux Utopiales, ce qui est super
comme prévu.
Cool. Comme prévu. Quoi dire de plus
C'était bien, les Utopiales.
Ouais.
C'était incroyable.
Moi, j'ai carrément vraiment kiffé. Oh,
trop bien. Je dis pas ça parce qu'il y avait la bonne auberge, mais un peu quand même.
Un peu quand même. C'est pas parce que moi j'y étais.
Si aussi.
Ah oui, ouais, j'ai rattrapé un peu.
Ça se revoit, j'imagine, la session de la bonne auberge.
Je sais
Est-ce
pas.
Est-ce qu'elle est en ligne? Parce que moi, je vais voir.
Ils étaient en direct. Ouais. Ils diffusaient en direct pendant que ça se jouait, mais je sais pas si ça a été rediffusé.
On en profite pour dire un grand merci à Fadi, technicien de la radio, qui nous permet
Fadi.
De diffuser en direct sur YouTube, sur le site, sur la page de Radio G. Merci de t'adapter aux contraintes que je te mets. C'est très sympa. Allez-y, continuez, je règle un truc.
Faut qu'on broie deux.
Eh ben moi, c'était la première fois que j'étais maître du jeu, je crois, dans une grande convention comme ça.
Ok.
Et ça s'est très bien passé.
T'as déjà été maître de jeu?
Ouais, mais d'habitude, c'est plutôt, on va dire, dans les bibliothèques locales.
Okay.
Et là, je sortais un peu de ma zone de confort.
Est-ce que tu as été bien pris en charge par Ludi Nantes, qui gérait les maîtres de jeu?
Carrément, ouais. En gros, c'était un peu premier arrivé quand même, premier tablé.
Ouais, exactement.
Ça, je ne savais pas trop.
Bah, parce qu'il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de visiteurs, et parfois, en une demi-heure, il n'y a plus de table.
Ils ont prévu aussi beaucoup. Et donc ma première session, on m'a casé à 10h du matin, bon ça allait. Et puis on a un peu dépassé, j'avais prévu des parties d'une heure, mais Et là, il y avait des gens qui arrivaient derrière et qui m'ont dit, bon, ça va, c'est en fait la prochaine est à 11h30. Par contre, l'après-midi, on m'a fait 13h et à 14h, il y a des gens qui ont dit, on prend la table, on en a besoin là. Donc, ouais, ça dépote. Mm. Mais du coup, on peut jouer à plein de choses très bien. Moi, j'ai pas eu le temps, mais...
T'as fait jouer quoi?
Eh ben, ta gueule, c'est quantique.
Et tu me parles poliment, s'il te plaît.
Et t'avais faire la nuit jeu de rôle? Pas du tout.
Non, j'ai le temps de faire en fait quasiment que mes deux parties et d'aller voir un peu vite fait les expos.
Ok.
Dont l'expo Stéphanie Hans.
Ouais.
D'ailleurs, qui se promenait.
Qui était magnifique. Dans le festival. L'expo était magnifique.
Ouais, je pense que pour les fans, il y avait effectivement de quoi se gaver là.
Ouais, c'était une très très belle expo. Moi, je connaissais Stéphanie Hans sur certaines de ses publications et j'avoue que j'étais ravi de découvrir des choses qu'elle a pu faire, notamment chez certains grands éditeurs US, vu que c'était vraiment très 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 cool.
Et puis, il y avait même le jeu d'ail qui était exposé dans une vitrine quand même.
Ouais. Alors, je fais une petite remarque aux gens qui ont exposé. Ça aurait été bien de mettre les dés collector qui étaient offerts avec la vraie version, parce que c'était pas ceux-là qui étaient dans la vitrine.
Monsieur est un connaisseur.
Je n'ai pas vu le dé en obsidienne.
Moi, j'ai vu des dés, je trouvais ça joli.
Mais c'était très bien. C'était très bien. On va pas se le cacher. Ouais, pas mal, hein.
Ouais. Bah voilà. À dans deux
semaines. Allez,
Et donc, la mémoire à ranger. Alors, est-ce que ça se réécoute, ça aussi?
Oui.
Alors là, bah, je peux faire mon petit topo.
Vas-y.
Effectivement, tu peux réécouter l'épisode qui s'est enregistré dimanche matin, où Seb a joué un personnage vraiment. Le trio de personnages que Seb, dont Seb faisait partie, était vraiment vraiment super 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 intéressant.
Merci.
Vous aviez une synergie incroyable, et tu peux retrouver l'épisode sur toutes les plateformes de diffusion. Spotify, YouTube, Apple Podcast.
Alors, pas encore, il est pas monté encore.
Oui, alors, il est pas monté encore effectivement, mais tu pourras le retrouver, et si tu suis la même rangée, tu peux retrouver déjà tous les épisodes de la saison 1, les hors-saisons et le début de la saison 2.
Et alors, si j'ai rien écouté, est-ce que je vais comprendre quelque chose? Ça s'inscrit dans un feuilleton ou... Ah oui.
Tu peux commencer la saison 2. Tu peux commencer la saison 2 sans avoir écouté la saison 1.
Okay.
C'est pensé pour, mais il y a des personnages
récurrents
qui sont là depuis la saison 1, et du coup tu n'auras peut-être pas toutes les petites anecdotes liées à ces personnages, mais en revanche il y a des duos de personnages qui sont nouveaux et des trios de personnages qui sont nouveaux, donc là tu pourras prendre le fil depuis le début.
Ouais, super. Un petit message au passage, je transmets les infos de la team Gevras. Alors c'est pas parce que j'ai participé que je le fais, c'est parce que vraiment je trouve que le boulot qui est fait est vraiment très très cool. Ils ont besoin de soutien. N'hésitez pas, je pique la petite phrase d'Iconoclast sur YouTube. Pour le prix d'un café trop cher, vous pouvez les financer un petit peu. Ça aide, les coûts de production en fait de chaque épisode sont assez importants. Ça plombe un peu la trésorerie. Ça fait des choses qui sont très qualitatives. En plus, j'ai eu la chance de voir un petit peu le temps qu'ils peuvent y passer pour le faire. Voilà, tout petit euro que vous avez en trop dans votre poche, n'hésitez pas à le donner via Patreon à la team Gevras. Si vous avez encore des euros en plus, n'hésitez pas à les donner à Radio G, ça fera pas de mal non plus.
On peut aussi.
Et puis si vous faites des chèques en blanc, bah je prends, moi il y a pas de problème. Mais ouais, non, n'hésitez pas, c'est de la prod, c'est gratuit, ça vous est offert gratuitement et c'est très qualitatif. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est très cool.
Bah, d'autant plus que là, pour l'instant, la mémoire arrangée est en pause, parce que tu en parlais, mais faire un épisode, ça commence à creuser plus que ça ne rapporte en comparaison des soutiens des mécènes. Donc le projet est en pause pour l'instant, avec d'autres projets de Gevras qui sont en train d'être diffusés. Il y a Inspecteur des Facs notamment qui va arriver, qui est très très cool, je recommande. Mais voilà. C'est la mémoire arrangée, c'est très gourmand parce que ça défraye des invités, ça va dans des événements, ça nécessite des frais de restauration et de logement. Donc, pour l'instant, malheureusement, ça va être en pause. Mais il y a des épisodes qui sont déjà enregistrés et donc ils vont être montés pour la suite. Donc, peut-être que dans cette zone tampon de mise à jour des épisodes, ça pourra repartir.
Et ben, en tout cas, c'est ce qu'on veut. Voilà. Pour finir de débriefer le... Donc épisode de mémoire rangée, et moi j'ai eu l'occasion en fait de faire des interviews directement. Je vais y arriver.
En mode commando.
En mode commando avec mes petits micros directement sur aux Utopiales, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a découvert l'émission 15 jours avant, enfin une semaine avant, parce que du coup c'était il y a 15 jours, à savoir Tollcraft, qui est un auteur de jeux de rôle et qui a découvert qu'il y avait une émission de jeux de rôle en écoutant Ça dégouline dans le cornet, et qu'on a pu voir, voilà, ce qui était très cool. Et ben, ce que je vous propose.
Il animait un atelier d'ailleurs là-bas.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Ce que je vous propose, c'est d'écouter. La boucle est bouclée. Je vous propose d'écouter l'interview que j'ai pu réaliser de Tollcraft et qui nous parle de son jeu de rôle, de son. C'est pas tout à fait un jeu puisque il y a un setting. Enfin bref, c'est lui qui en parlera mieux. Je vous fais écouter ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après sur le 100.5 de Radio G.
On est là à peu près.
Hop. Je commence toujours pareil, je suis en direct de Zootopial et je suis en compagnie de Tollcraft, alias Jean-Marc, ou Jean-Marc alias Tollcraft, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu viens présenter aujourd'hui ici, Tollcraft?
Alors aujourd'hui aux Zootopial, je présente mon scénario que j'ai coécrit avec Kator et qui est illustré par Gogots, qui s'appelle Licorne d'abondance. C'est un scénario médiéval fantastique qui se veut extrêmement libre. Il faut savoir qu'on l'a conçu pour tester la moralité des personnages afin de leur proposer des situations qui soient toujours épineuses et qui n'aient pas de bonnes situations évidentes. Chaque situation, chaque dénouement va forcément avoir un compromis, que ce soit pour les joueurs, pour les personnages non joueurs, pour l'environnement, pour la région. Il y aura un choix à faire, lourd de conséquences dans tous les cas. Et qu'est-ce qu'on y joue?
Ouais. Je me permets, c'est un setup médiéval fantasy?
Ouais, tout à fait, c'est du médiéval fantasy assez classique. La proposition, c'est que tes joueurs ont entendu parler d'une rumeur d'une licorne dans une petite baronnie reculée, et tu leur poses la question, pourquoi vous y êtes allé? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire? Ils peuvent te répondre ce qu'ils veulent, la voir, la protéger, la capturer, obtenir sa corne, obtenir un souhait, c'est vraiment très libre. Et puis lorsqu'ils arrivent sur place, t'as le petit village qui est décrit, le petit village d'abondance, et puis t'as surtout 20 PNJ qui sont proposés. Il y en a 4 ou 5 qui sont strictement nécessaires pour que l'intrigue puisse avoir toutes ses résolutions, quoi que fassent les PJ. Mais au fur et à mesure que tu vas jouer la partie, tu peux en rajouter de plus en plus, histoire d'avoir une partie qui soit plus longue, parce que si tu mets que 4 ou 5 PNJ, ça va se jouer en 2 heures à peu près.
Okay.
Si t'en mets une dizaine, t'as une partie classique de 4 heures. Si tu mets les 20 PNJ, ça fait énormément d'interactions avec les joueurs, également possiblement entre PNJ également. Et ben ça va te faire une partie qui fait 6-8 heures sans aucun problème, quoi. Okay. Et il y a aucune structure ni en acte ni en scène, c'est vraiment juste du jeu en réaction. Tu laisses tes joueurs libres de parler à qui ils veulent, d'entendre les rumeurs qu'ils veulent, de suivre les pistes qui les intéressent, sachant que bah ils risquent de rencontrer des personnages qui vont leur donner des infos, d'autres qui vont leur dire que attention, tel PNJ n'est pas fiable, ou bien que celui-là est en train de mentir. Et chacun a des intérêts très divers, très variés. Cette licorne a attiré beaucoup d'intérêt, des chasseurs, des protecteurs, des gens qui sont là pour un aspect religieux. Et okay. Il va falloir un peu naviguer comme ça, comme ils le souhaitent, en fonction de leur gré, de leurs envies et de leurs choix, dans ce micro setting. C'est un micro sandbox à l'échelle d'un village, en fait.
Et c'est un micro sandbox qui a son propre système de jeu, ou ça se base sur un autre système de jeu?
Le système de jeu proposé dans le livre, il y en aura deux. Il y a les stat blocks pour Donjons et Dragons 5e édition, parce que c'est un peu obligatoire. Et puis des stat blocks beaucoup plus courts, compatibles OSR, donc Old School Renewal, qui tiennent en quelques lignes. Et puis on pourra également, cette fois-ci, en téléchargement dans les aides de jeu, sans doute également des stats blocs en pourcentage pour les gens qui sont plus habitués à du Warhammer et ce genre de choses. Et c'est, honnêtement, foncièrement, c'est quasiment jouable sans règles. 80% du scénario tourne autour des interactions avec les PNJ et des choix des joueurs, et pas du tout sur ni du combat, ni de l'exploration, ni des tests à gogo.
Donc pas de boîte de dés, ouais, non.
Non, il n'y a vraiment pas besoin, c'est vraiment pas le genre de choses que je fais. Et de toute façon, mon co-auteur sur ce scénario, Kator, lui le fait jouer sans jet de dés, sans aléatoire, uniquement avec des règles mécaniques très simples.
Accessible à tout type de joueur?
C'est vraiment accessible à tout type de joueur et tout type de MJ. Que tu sois débutant, et dans ce cas-là, tu fais une partie assez courte pour commencer et débuter avec juste quelques PNJ, histoire que ce soit facile à maîtriser et assez court. Et puis, si t'as un vieux briscard avec 20 années d'expérience, t'as 20 PNJ qui sont tous ultra typés, ultra marqués, avec des points de vue bien différents, avec des particularités physiques ou vocales très différentes, et que tu vas pouvoir prendre plaisir à incarner. Voilà.
deck. Donc c'est en late pledge, c'est sur Game on Tabletop.
Ouais, en late pledge sur Game on Tabletop, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le projet est déjà financé, on est à plus de 200% de...
Ouais, donc c'est sécure pour toute personne.
Ouais, c'est sécure, le livre existera quoi qu'il en soit. C'est juste l'occasion pour les gens de rejoindre le train pendant qu'il est encore en station.
Voilà,
on livrera le PDF à la fin de l'année en version alpha. On n'aura pas encore toutes les illustrations, mais presque. Et le livre est prévu pour une livraison physique en avril 2026.
Il n'y a qu'un livre dans la...
Ouais,
dans
ce sera un livret au format A4 de 70-80 pages à peu près, avec donc 20 PNJ illustrés plus quelques illustrations d'ambiance, et puis deux plans au format A3 du village et des ruines à côté.
Ok. Pour finir, si tu devais en une phrase convaincre quelqu'un d'acheter ce JDR-là, Licorne d'Abondance, plutôt qu'un autre,
pourquoi? Parce que c'est un scénario où les actions des joueurs ont pour de vrai un vrai poids. Tu vois, ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, et tout le scénario est bâti uniquement en réaction au choix des joueurs, et pas en fonction de ce que j'ai décidé moi en tant qu'auteur ou ce que le MJ décide.
Ah, c'est full ouvert.
Ouais.
Ok. Un dernier mot?
Merci beaucoup.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Un grand merci à Tollcraft de nous avoir fait découvrir Licorne d'Abondance. Je vous invite à y aller, ça a l'air très cool. C'est le genre de jeu dont je pourrais pas vous faire une partie à la radio, simplement parce que c'est un scénario global. Même si les parties vont être différentes l'une des autres, on va gâcher un petit peu la trame dans le coup. Ce qui serait un petit peu aussi le cas de 27C, qui est un jeu un petit peu particulier que j'ai eu aussi l'occasion. J'ai pas rencontré 27C en tant que tel, même si vous allez voir, il y a peut-être une subtilité, mais j'ai rencontré un de ses auteurs et je vous laisse écouter l'interview que j'ai pu réaliser aux Utopiales. Si ça veut bien se lancer.
Je suis en direct des Utopiales avec Arthur. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui ?
Alors, nous, aujourd'hui, on présente un jeu de rôle qui s'appelle 27C. C'est du jeu de rôle indépendant et qu'on fournit grâce à l'association Bordure, qui est notre éditeur, qu'on a conçu ensemble pour proposer une gamme de jeux. Aujourd'hui, un kit découverte et un scénario unique pour le jeu 27C.
De quoi ça parle, 27C ?
27C, c'est un jeu d'urban dark fantasy. Donc on reprend les codes de la dark fantasy, on les met dans une ville moderne. On va faire des cercles rituels, mais on les fait derrière les immeubles. Voilà. Et dans ce jeu, les joueurs vont jouer les ombres d'un personnage central qui s'appelle 27C. Ensemble, ils vont devoir collaborer et accompagner 27C dans une quête de mémoire.
Secret-secret.
Secret-secret. 27C est menacé par divers dangers occultes, mais aussi par une ville hostile à l'occultisme en général, et va devoir survivre, et les joueurs, eux, vont devoir comprendre le sens de leur état, comment accompagner 27C, qui est 27C, et pourquoi est-ce que tout semble lui en vouloir.
C'est un setting de jeu qui a ses propres mécaniques.
Il y a des mécaniques associées, tout à fait. On est sur de l'ultra accessible, on travaille au dessin, donc on a une paire de dés, un pour les dizaines, un pour les unités. Les ombres ont 8 caractéristiques seulement, équilibrées par paire. Le jeu est tout simple, tu jettes les dés, et si tu fais en dessous de ta caractéristique, c'est réussi.
Ok. Quand tu dis équilibré par paire, c'est-à-dire qu'on peut pencher du côté obscur ou du côté clair ?
C'est pas du côté obscur ou du côté clair, c'est un équilibrage qu'on peut voir sur une feuille d'ombre dans lequel on va avoir 8 caractéristiques par paire, par exemple l'humanité et la violence. Si je choisis de faire basculer mon humanité vers le haut, je veux être plus lié aux humains, mieux comprendre leur discours, leur savoir et leur technologie, je vais monter peu à peu au-delà de l'équilibre à 50, monter à 60, 70% de chance de réussite, 80%, et bien à chaque point gagné, j'en perdrai un en violence.
Ok, et ça va guider un petit peu le roleplay qu'on va pouvoir
avoir.
Ça va
guider le roleplay de l'ombre, ça va guider ses chances de réussite, et ça va l'encourager à collaborer avec les autres qui auront fait d'autres choix de répartition.
C'est top. C'est un jeu qui peut se jouer à partir de combien ?
Alors, c'est un jeu, nous, qu'on recommande pour au moins une meneuse de jeu et deux joueurs. Okay. Au moins. Idéalement, je préfère jouer à 3 ou 4 joueurs en même temps. Mais c'est un choix. Je sais que certains meneurs en font des parties à 6 joueurs. mais ça devient un peu chargé pour prendre les décisions.
Pour masteriser, ouais, ça voilà.
Mais les enjeux ne sont pas du tout les mêmes et les narrations non plus. On a des outils de narration partagée qui font que quand 6 joueurs doivent se mettre d'accord, les résultats ne sont pas les mêmes que quand seulement 2 joueurs doivent discuter. Ça crée d'autres dynamiques sociales autour de la table, c'est vraiment intéressant pour nous.
Hop, il y a 2 livrets.
En effet, sous les yeux, tu as 2 livrets. Alors, le livret blanc est le kit découverte de 27C. Celui sur lequel est inscrit Fuko, c'est mon nom, tout simplement. Mais je ne travaille pas seul, on est toute une équipe. Le livret est coécrit avec Jus Bernard Martinez et il y a toute une équipe qui a travaillé dessus, notamment une équipe cinéma pour des teasers vidéo, notamment un musicien qui a fait la bande son du jeu en accès libre sur YouTube, mais aussi un illustrateur et graphiste qui a fait tout ce que tu as sous les yeux.
Donc c'est un jeu qui est limite transmédia. Si on a une bande son, s'il y a des teasers, s'il y a des choses comme ça, ça va.
On a travaillé en collectif avec les compétences que chacun avait envie d'apporter et du coup ça a donné ce kit découverte qui a été édité en financement participatif en 2021. Très récemment, en septembre dernier, on a réussi à faire paraître un nouveau scénario pour le jeu qui s'appelle Problème d'attitude et qui a été rédigé par Balten qui est derrière moi sur stand. Elle n'est plus derrière moi sur stand.
Elle a disparu.
Elle
s'est fait
engripper
par 27C.
C'est ça, elle s'est fait agripper par 27C. Un scénario qui vient non seulement approfondir une des mécaniques de jeu qui est le triangle d'attitude de 27C, c'est-à-dire l'interprétation pour la meneuse des comportements de ce personnage central, dirigé par 3 émotions clés, la haine, la culpabilité et le chagrin. Le scénario est jouable en 4 à 6 heures et va permettre aux ombres d'aller explorer non seulement ses comportements, ses émotions pour 27C, mais de voir joindre ça à la résolution d'une enquête.
Ouais, ça va pousser le gameplay et le roleplay en fait, des joueurs plus loin sur le scénario. En fait.
Exactement, et sur leur lien à 27C.
Ouais, tout tourne vraiment autour de 27C. Là, une fois qu'on a fini... Non, c'est que des kits d'initiation.
Okay. Là, on a un kit d'initiation et ici un scénario complémentaire.
Pas de campagne en vue pour l'instant.
La campagne est en rédaction. Les premiers actes sont disponibles dans le kit découverte. Il faudra attendre que le manuel paraisse enfin. En attendant, pour donner du grain à moudre, notre projet éditorial est de fournir plus de petits scénarios, approfondissant chacun certaines mécaniques de jeu et proposant des scénarios uniques, bien clôturés, pour ne pas vous frustrer avec que des histoires incomplètes. Voilà.
Où est-ce qu'on peut se procurer tout ça ?
Alors, on a un Discord sur lequel on échange évidemment avec vous, une boutique Etsy sur laquelle vous pourrez retrouver le kit découverte, le scénario et plein de matériel pour financer le projet. C'est une association, on a tous des emplois à temps plein à côté, on ne détend pas de cet argent pour vivre, ça nous permet de financer essentiellement le projet, d'imprimer des scénarios, du matériel de communication, de nous déplacer en convention pour rencontrer notre public. Matériellement, les prix de vente sont assez bas. On est sur des PDF pour le kit découverte qui est à 6€, pour le scénario qui est à 3,60€. Sur les formats papier, le kit découverte est à 15€ et les scénarios à 5€.
Très accessible.
On a essayé de faire de l'ultra accessible. On vient pas tous de milieux ultra privilégiés et on veut que le jeu de rôle reste accessible tout en permettant de générer un peu d'argent pour financer le projet. On a l'impression que c'est important de se financer réellement dessus pour aussi gratifier un travail réel sur le projet.
L'association fait d'autres activités liées au jeu de rôle de près ou de loin ou même d'autres activités.
L'association, elle est porteuse de partenariats avec d'autres jeux. On s'associe bien souvent à nos collègues auteurs, notamment les Chantines d'Alos, mais aussi depuis peu Aquamuros, pour participer ensemble à des conventions, pour échanger des informations, pour se mettre en réseau en tant qu'auteur, c'est important. Pour organiser, par exemple, sur les Utopiales, une petite conférence autour de la notion de système de jeu au service de la narration. Ce genre d'événement est possible parce que l'association est porteuse de ces projets. Ensuite, elle nous permet de déployer des parties d'initiation sur Paris, en l'occurrence, parce que c'est notre centre principal d'activité. Dans d'autres associations, on intervient sur des parties tantôt gratuites, tantôt rémunérées, selon les collaborations qui sont mises en place avec elles.
Parfait. On va arriver sur la fin. Si tu devais inciter quelqu'un à acheter 27C plutôt qu'un autre jeu en une phrase.
27C, c'est un jeu qui est dark, narratif et coopératif.
Nickel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, l'association, toi, 27C, le Discord, ok, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels on peut voir ?
Tous les réseaux classiques, les Instagram, les Facebook, 27C Jeux de Rôle, 27C Officiel, on est une petite communauté, mais on est super actifs, on est toujours ravis de voir du monde arriver, et s'il y a des questions, on répond aux messages.
Merci beaucoup, Arthur.
Merci à toi.
Radio G, www.radio-g.fr.
On a des gens qui se retiennent quand ils entendent des jingles comme ça. Ah là là. Attends, maintenant, je t'ai pas mis pas mis le bon micro.
On t'entend pas.
Oh là là, on m'a pas entendu faire la toute.
Radio G 101.5 FM.
Voilà.
Voilà, c'était Magali.
C'est Magali. On fait un bisou à Timmy d'ailleurs. On te laissera parler juste après, Romain. Je sais que tu trépignes d'impatience. Est-ce qu'on mettrait d'abord un petit morceau musical? Parce que sinon, on n'aura pas le temps de les caser.
Ouais, bah ok.
Et puis, on met une autre interview. On fera la chronique de Nolwenn. Et tu parles après.
D'accord.
Ça va?
Ouais.
Le premier morceau, il s'appelle comment?
Bah, je sais pas, comme tu veux.
Mais je sais pas, c'est toi qui as choisi. Donc,
ouais, mais je sais pas dans quel ordre la platine.
Ben...
C'est peut-être Wizard de Castle Rat.
Eh ben, on écoute peut-être Wizard de Castle Rat.
www.radio-g.fr.
Et oui, vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours Seb, c'est toujours Nolwenn, c'est toujours Romain.
On veut dire pourquoi on a écouté Castle Rat.
Ouais, mais t'embraye pas sur ta chronique.
Non.
Alors attention, je te surveille.
Non, parce que j'allais parler d'un fanzine où donc la chanteuse, enfin celle qui fait tout hein, dans Castle Rat, Riley Pinkerton, est interviewée dans un fanzine dont je parlais tout à l'heure, mais de jeu de rôle. Et en fait, elle a joué à côté de Nantes le samedi des Utopiales.
Ah ouais, ouais.
Au West Hill Festival, dont l'émission d'avant, ça dégouline dans le cornet, a diffusé des interviews.
Vous voyez, on connecte tous,
hasard de dingue.
On connecte, quoi.
C'est fabuleux. Du coup, on va finir avec les Utopiales. Et j'ai fait une autre interview, une interview des éditions Spectrum. On en avait parlé très brièvement. On avait fait un topo avec Nolwenn. On avait regardé un petit peu les sorties et on avait parlé de Sorties World Lesbian. Je sais pas si tu te rappelles.
Oui.
Et ben, c'est publié par les éditions Spectrum.
Et ben, traduit.
Oui, c'est traduit, oui. Ouais. Oui. Traduit et édité en France par les éditions Spectrum. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse écouter l'interview justement et on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de
Radio G.
On est d'abord de l'entité un petit peu.
Ouais. Du coup, moi je représente les éditions Spectrum, une maison d'édition qui édite à la fois du jeu de rôle et aussi de la fiction, toujours sur des thématiques notamment représentation queer, féminisme, antiracisme. Donc ça, c'est les sujets au cœur de notre activité. Et en ce moment, bah, on présente en particulier Notre-Dame de Paris, jeu de rôle à la Cour des Miracles. C'est notre prochain jeu de rôle, donc là, de la création francophone. Et on joue des personnages du coup issus de la fameuse Cour des Miracles à Paris au 15e siècle, qui vont être aux prises à la fois avec les grandes thématiques de la condition humaine qui traversent l'œuvre de Victor Hugo, parce que nous, on s'inspire vraiment du roman et des thèmes qui sont déjà dans le roman, et à la fois donc qui vont chercher à s'extraire de leurs conditions et vont découvrir les secrets ésotériques du Paris, car en fait suite aux événements du roman, la magie s'éveille à Paris. Et
il y a
du fantastique, alors avec un dosage qui est au choix du groupe.
Ça peut aller de très peu à beaucoup beaucoup.
Voilà. En fait, nous, on propose en gros un curseur à régler. On donne tous les outils pour jouer en mode historique, médiéviste même. Et après, distiller en fonction des envies de la tablée le niveau de fantastique. Sachant que, par exemple, il y a des entités dans Paris qui se déplacent la nuit, les gargouilles de la cathédrale. Et qui ont un rôle justement sur cette émergence de la magie et un petit peu toutes les intrigues qui vont découler de cette situation un peu explosive avec des gens qui en fait se sont au bas de l'échelle sociale mais se retrouvent avec une prise sur le réel et qui va peut-être leur donner un ascendant. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, ça ce sera aux joueurs
de le décider.
Voilà.
C'est un jeu qui est accessible à des joueurs débutants ou mieux plutôt des joueurs aguerris?
Alors les deux, mais c'est vrai que moi je fais beaucoup jouer notamment des joueurs et des joueuses débutants parce que le système il se veut très narratif, donc ça démystifie un petit peu certaines appréhensions des gens qui débutent le jeu de rôle et qui
les brouettes de jet de dés avec des mécaniques complexes.
J'ai besoin de lire 15 livres pour pouvoir jouer, je me sens pas à l'aise, etc. Là en fait quand je fais jouer, en gros je propose la feuille de personnage, il y a une ou deux cases à cocher et puis on commence à jouer. Et en fait, la mécanique de jeu est très simple. En fait, on jette 2d6, on rajoute une valeur et on regarde l'échelle de réussite qui est déjà sur la feuille de personnage. Donc tout est à dispo en fait des gens sous leurs yeux. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment extrêmement simple de mettre le pied à l'étrier, quoi.
Pour des groupes de combien de joueurs à peu près?
Ça dépend un peu des habitudes des gens. Moi je fais jouer entre 3 et 5 personnes en général, parce qu'au bout de 6 personnes, pour moi c'est un petit peu difficile pour pouvoir répartir la parole à tout le monde. Mais après c'est un peu à l'envie, je connais des gens qui font jouer plus. Donc ça dépend vraiment des gens.
C'est le maître du jeu en fonction de comment il va vouloir.
Exactement. Il y a aussi des gens qui font jouer des paires de joueuses, ça leur pose pas de problème.
Oui, ce sera pas gênant. Ce sera en financement participatif, c'est
ça? C'est déjà en financement sur la plateforme Game On Tabletop. Et là, le financement durera jusqu'au 16 novembre. Donc vous avez encore quelques jours pour participer si vous le souhaitez. On a des offres en PDF ou du livre physique.
Et qu'est-ce qu'on peut avoir dans la gamme en livre physique? Ce sera juste le livre de base ou il y a déjà des choses prévues en plus?
Il y a plusieurs choses. Il y a le livre de base donc, dans lequel vous avez déjà deux scénarios jouables. Il y a un écran qui vient avec un scénario et un recueil de 8 scénarios qui permet d'explorer les différentes factions. Alors, notamment celles qui sont présentées par Hugo dans le roman, mais aussi une faction qui est inédite du jeu de rôle. Oui.
Secret?
Secret à découvrir. Avec sûrement quelques têtes connues pour les gens qui ont lu le roman, voilà. Sachant qu'il d'ailleurs il n'est pas obligatoire de connaître déjà l'intrigue de Notre-Dame de Paris, quelle que soit l'adaptation, cinéma, Disney, comédie musicale ou le roman.
En fait, si on connaît rien du tout, on peut y aller.
On donne toutes les clés pour commencer et on vous dit à partir d'où vous reprenez le fil et voilà.
Super. J'ai un rituel, si on devait synthétiser en une toute petite phrase un gimmick pour dire acheter ce jeu-là plus qu'un autre.
J'ai un de mes auteurs, du coup, d'ailleurs que je salue, Erwan, qui a résumé un peu le jeu en disant que vous jouez des Avengers sans sécurité sociale, mais avec l'ambition de l'agence Tourisque.
Ok, autant de, autant de Notre-Dame de Paris.
Voilà.
Eh ben parfait. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut trouver aussi la maison d'édition?
Alors sur Internet, si vous tapez édition Spectrum, vous tombez sur notre site. On a aussi au niveau réseau social, Insta, Facebook, toujours sur le même intitulé, hein, édition Spectrum. Et aussi on a un compte Blue Sky, même si pour l'instant il est vraiment... il commence à se lancer parce que faut avoir la main partout, donc j'ai moins de temps pour Blue Sky, mais je commence un petit peu à toucher l'outil.
Ok. D'autres projets que Notre-Dame de Paris sur d'autres gammes ou des jeux peut-être un peu plus anciens ou,
Alors les jeux qu'on a déjà édités, on a deux traductions. On a Thirsty Sword Lesbians, qui est une traduction du coup de l'américain, et on a aussi Moonlight on Roseville Beach. Donc Thirsty Sword, il permet de jouer du drama KPDP avec des personnages ultra grandiloquents et un grand focus sur les relations entre les personnages. Et Moonlight, il permet de jouer, moi je le décris souvent comme l'appel de Cthulhu sans sexisme et sans racisme.
Okay.
Donc on joue dans une station balnéaire des années 70. Donc il y a un côté un peu disco et c'est de l'investigation occulte. Donc il va se passer des choses et en gros les enquêteurs et enquêtrices vont essayer de protéger leur communauté de ce qui...
Un dernier mot pour la fin.
Radio G. www.radio-g.fr.
Tu lui as coupé la
parole. Je m'excuse, je crois que le dernier mot c'était merci.
Non, je crois que c'était Radio G le dernier mot.
Voilà, l'interview des éditions Spectrum qui font un taf assez cool pour faire de l'inclusivité. Et moi, je trouve ça vraiment très très bien. Voilà, on avait parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, de Thirsty Sword Lesbian. Juste les graphismes sont assez dingos. Donc voilà. Quoi dire de plus? On en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand je suis en festival, j'ai tendance à avoir un problème de carte bancaire et j'achète trop de trucs. Donc j'ai acheté un petit jeu. On en parlera peut-être tout à l'heure si on a un petit peu de temps.
Il a l'air vraiment petit, ouais.
Oui, il est tout petit. Mais c'est du jeu de rôle.
Hein, pas la taille qui compte.
J'imagine. C'est pas la taille qui compte, c'est vrai. Nolwenn.
Oui.
De quoi tu nous parles?
Alors, je vais vous parler non pas de créatures fantastiques, mais de sorts magiques. Donc, désolé pour le générique de ma chronique qui sera malheureusement peut-être pas raccord, mais si tu l'as sous la main.
Oui, je l'ai quand même. Ben oui, bien sûr que je l'ai.
Je ferai une entorse.
Fantastique.
Et je ne sais pas si j'aurais raison pour cette chronique, car comme je le disais, je ne vais pas parler d'une créature fantastique, mais d'un sort, donc je sors un peu des sentiers battus. On va aller s'intéresser au sort magique, donc c'est quand même une composante centrale des univers de jeux de rôle. Et ils sont extrêmement variés, eux aussi, donc comme on parle de bestioles humanoïdes et autres étrangetés animales en tout genre sur cette chronique, on va changer un peu. Le site Ed&D nous en propose environ 480, pour les plus classiques, tout niveau et classe confondue.
Ça fait pas mal quand même. Est-ce que tu as choisi un élu parmi ces presque 500 sorts pour juste ce sort ou tu nous fais les 500?
Alors, je vais pas faire les 500, effectivement, j'en ai choisi un qui m'a intéressé. Il est plutôt bien connu de nos amis druides parce qu'en fait, il s'agit du bien nommé fouet épineux. Et quand vous avez un druide dans votre groupe, c'est pas rare qu'il le maîtrise parce qu'en fait, c'est un sort de niveau 0, donc il peut s'en équiper à la création de son personnage au tout début. C'est un sort qui permet de créer une longue et épaisse liane qui va ressembler à de la vigne et qui est recouverte d'épines. Elle est capable de s'accrocher à une créature à sa portée et pourra lui infliger des dégâts. Visuellement, la croissance de la tige épineuse, elle est instantanée, rapide et complètement incontrôlée.
Donc du coup, parmi les plantes que nous, on connaît dans notre monde, il y en a une certainement, une super plante qui pousse super vite, non ?
Alors la réponse est oui, et aussi surprenant que cela puisse être, il s'agit d'une toute petite plante, une lentille d'eau nommée Wolfia australiana. C'est une plante, merci. C'est une plante toute simple dont l'appareil végétatif, donc la feuille, sert pour la flottaison et pour la photosynthèse. Niveau taille, elle fait environ 4 mm, donc c'est vraiment tout petit, et parfois elle fait moins.
Encore plus petit.
Mais cette petite et banale lentille d'eau, elle cache vraiment bien son jeu, car elle possède une aptitude qui est vraiment extraordinaire. Elle est tout simplement capable de doubler de taille en 24 heures. Alors si vous transposez ça sur un arbre ou sur une plante d'intérieur, tout de suite c'est très très visuel.
Oui.
C'est assez impressionnant. Et cette croissance qui est complètement extraordinaire, elle réside dans deux éléments que Wolfia australiana a perfectionné au cours de son évolution. Premièrement, cette petite plante, elle a perfectionné son génome, c'est-à-dire son codage génétique. Il est extrêmement simplifié au point que la lentille d'eau s'est débarrassée de la partie du code qui l'a contraint à suivre un cycle circadien. C'est-à-dire qu'elle peut pousser
jour-nuit.
Mais le jour-nuit n'influence plus.
OK.
Si on l'illumine en continu, elle va pousser en continu. À la différence des plantes qui vont ralentir leur métabolisme selon la luminosité ambiante.
Un peu comme nous, en fait. Ouais.
Un peu comme nous. Donc, elle grandit quand bon lui semble et sans interruption s'il le faut. En lien avec son génome qui est extrêmement simplifié, la croissance de Wolfia australiana ne se fait qu'avec un seul type de cellule. Et c'est un modèle cellulaire unique qui va croître via un système de bourgeonnement. Il y a une cellule mère qui va enchaîner les divisions et les cellules filles vont enchaîner les divisions et ainsi de suite. C'est très rapide et ça part d'une seule cellule.
Et du coup, tu penses que la plante invoquée par le sort fouet épineux, du coup, ça reposerait sur les mêmes caractéristiques?
Alors, pour moi, en partie seulement, parce que la croissance rapide et incontrôlée de cette lentille d'eau, elle se fait via des cellules qui sont toutes identiques et ce modèle-là se confronte avec l'idée même de la présence d'épines sur les lianes. Parce que si les épines se forment à partir de cellules dérivées, et qu'on s'appuie sur le modèle de Wolfia australiana, le génome, il est trop simplifié pour qu'il y ait une modification post-bourgeonnement. Donc ça devient impossible d'avoir des épines. L'idée d'avoir une croissance incontrôlée fait sens avec le génome de la lentille, mais les épines, c'est encore un mystère à résoudre. Donc c'est pour l'instant juste une ébauche de réponse pour expliquer ce sort de foie épineux. Et au final, c'est pas la taille qui compte, mais bien le génome.
On va s'arrêter sur cette très jolie phrase. Vous noterez, hein, si vous nous suivez sur YouTube, que j'autorise le téléphone dans le studio. Romain, ça va être à ton... Merci Nolwenn déjà pour cette chronique, merci.
De rien.
Romain, ça va être à ton tour dans quelques instants. Je te propose de faire un petit coup musical, ouais, avec le deuxième morceau. Si tu dis ouais, de loin,
ce sera
ton micro,
t'entends pas. Du fanzine dont j'allais parler.
Ouais.
Weird Science, ça m'a fait penser à cette chanson de Oingo Boingo.
Eh ben, on est parti. Oingo Boingo.
On va peut-être pas l'écouter en entier parce qu'elle est longue, mais voilà.
Ben, on va faire un fondu enchaîné.
Si ça vous dit quelque chose, et si vous arrivez à reconnaître la voix du chanteur.
Eh ben, on écoute ça.
Une longue carrière musicale. My heart and from my hand, why don't people understand my intention? Weird Science, ça me dit ça tout de suite, cette chanson.
Oui, mais oui.
Et ça me rappelle aussi.
Tu es sérieux, t'as pas vu
ça? Non, c'est un film de John Hughes, je crois. Donc vraiment, de toute façon, ça s'entend que c'est le milieu des années 80.
C'est du film tout public, hein.
Une créature de rêve, hein, il me semble, le titre français.
Une créature de rêve, il y avait le film et ça a donné lieu à une série qui s'appelait Code Lisa.
Je suis trop jeune.
Qui était très cool, trop jeune. La vache, t'es plus vieux que moi. Bref.
Et vous avez reconnu la voix du chanteur d'Oingo Boingo?
Non,
il
aurait
une longue carrière dans la musique de film.
J'ai essayé, j'ai pas réussi.
Danny Elfman.
Sérieux?
Ouais.
Ah mon Dieu. Ah. Pour les plus jeunes d'entre nous et qui connaissent pas ou les moins cultivés d'entre nous, c'est quand même le compositeur de quasiment déjà beaucoup de choses et de quasiment tous les films de Tim Burton.
Ouais.
Déjà c'est... pour vous donner voilà.
C'est aussi les Simpsons, Desperate Housewives, enfin bref, plein
ouais,
plein
un gars qui touche un peu sa bille
et qui continue de faire quand même un disque de rock à peu près tous les 10 ans quoi, chose comme ça.
Ça va.
Continue
ça
de
laisse
chanter.
Un peu de temps.
Ouais.
Bon, t'étais pas là pour nous parler de Danny Elfman, j'imagine.
Non. Et donc Weird Science, quand j'ai vu ce fanzine, je sais pas, on va le montrer aux caméras.
Tu montres la caméra
je me suis
là.
Dit, non mais il faut que j'achète ce truc quoi. Déjà la couve.
Là, celle qui est là. Ouais. Ce sera mieux, je pense.
La couve, elle est trop belle.
On la voit pas.
Il y a des couleurs, comment t'appelles ça? Des couleurs contraires, un truc comme ça. Qui est,
C'est très contrasté.
Voilà, c'est l'idée de l'art psychédélique, en fait. C'est de mettre des couleurs contraires les unes à côté des autres pour faire d'énormes contrastes. Et la façon dont tu, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte, dont tu éclaires cette couverture, ça change les couleurs.
C'est vrai.
Donc, couve d'Alexa Edgorboot, qui est un monsieur qui dessine pour le jeu, mais qui a aussi fait les visuels de Castle Rat, qu'on a entendu tout à l'heure. Et donc, on retrouve d'ailleurs la chanteuse de Castle Rat sur la couve. Alors, il y a une interview du groupe dans ce fanzine. Donc, c'est un fanzine qui parle... Alors, c'est un fanzine anglais, avec des collaborateurs anglo-saxons d'un peu partout. Ouais, on le trouve pas en kiosque en France, hein.
Clairement.
Non. Et ça parle surtout de jeux de rôle, mais aussi pas mal de wargame. Un peu jeux de société, un peu jeux vidéo. Et on sent que ce sont des Anglais plutôt de ma génération, quand même, qui ont été beaucoup bercés par Donjons & Dragons et Warhammer. Ça reste vraiment les deux grosses influences de ce fanzine. Mais voilà, ils parlent de choses. Bah, 30 Sword Lesbians, par exemple, ils en ont parlé dans un numéro précédent. Là, c'est le numéro 7. Hein. C'est quelque chose d'assez récent, mais apparition complètement aléatoire. Ils font un fanzine quand ils estiment qu'ils ont suffisamment de matos. Alors, au fur et à mesure des éditions, c'est devenu de plus en plus luxueux, je dirais. Et bah voilà, par exemple,
Price of Freedom.
Alors en fait, je l'ai trouvé parce que j'étais à Berlin. Et donc à Berlin, on trouve une petite boutique qui s'appelle All the Problems in This World et qui distribue déjà en Europe plein de jeux de rôle indé américains et aussi des fanzines comme ça que sinon on doit trouver qu'en Angleterre. Et alors du coup, quand j'ai vu qu'il y avait cet article sur les jeux de rôle pendant la guerre froide, sachant que je faisais un peu de tourisme historique à Berlin, je me suis dit là, ça me fait un deuxième argument pour acheter ce fanzine qui tombait vraiment.
T'as eu tout à fait raison.
Et donc plein d'articles intéressants. Ce que j'aime bien, c'est que ça creuse beaucoup. Contrairement aux magazines, on va dire de jeux de rôle français, je peux en parler parce qu'ils sont tous morts là.
Ouais, je pense que
jeux de rôle magazine, Casus Belli, où il y a des articles sur des jeux qui pour moi ne vont pas assez loin. Quoi. C'est vraiment le ressenti d'une personne. Sébastien, tu vas m'engueuler parce que t'as écrit donc des chroniques dans Casus Belli. Mais là, ils vont surtout chercher les créateurs et ils leur demandent toujours mais pourquoi tu fais un jeu sur la guerre par exemple. Ça parle de Wargame, il y a aussi une réflexion. Ok, tu dois représenter des soldats. Comment tu les représentes? Qu'est-ce qu'ils représentent dans ce peuple? Par exemple, les Russes, ils ont pas tous la même tête et tout. Enfin, Stalingrad, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce que c'est rigolo de jouer à la guerre? Ah ben non, en fait, on va montrer dans notre jeu que la guerre, c'est dégueulasse. Et donc, au fur et à mesure du jeu, par exemple, dont il parle là, dans Undaunted, le mec raconte qu'en fait, plus t'avances dans le jeu, plus tu vois des choses horribles sur ton plateau de jeu. Et donc, il y a toujours une réflexion, je dirais, sur, d'accord, on joue, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on le représente? Donc, j'aime bien ce...
Ça parle du fond et puis du côté créateur du jeu.
Oui, tout à fait, ouais. Et donc, il y a aussi beaucoup d'anecdotes sur la création. Et un truc qu'on peut voir, c'est que le graphisme du fanzine, quand on change de jeu, en fait, le graphisme change aussi. La couleur des pages change.
Ouais.
Là, par exemple, t'es en train de passer à Through the Hedgerow, qui est un jeu de rôle anglais assez récent, sorti l'année dernière chez Osprey, sur, on va dire... comment je dirais, un jeu qui parle du folklore anglais. Et voilà, ils ont une mise en page toute jaune, en fait, juste pour parler de ce jeu. Et ils font aussi travailler des illustrateurs qui redessinent des fois des choses juste pour les articles. Donc il y a des visuels qui sont extraits des jeux, mais ils font aussi bosser des gens, comme dans la presse généraliste, souvent, des fois, on a des illustrations qui représentent un peu... On demande à des dessinateurs de refaire des choses, ouais.
Et je pense que sans casser le sucre sur les gens qui m'ont fait travailler, il y a peut-être plus de variété d'illustrateurs et de styles graphiques dans cette structure-là que sur des choses, tu citais Casus Belli, JDR Mag, on va retrouver les mêmes artistes quasiment tout le temps.
Ouais.
Ok.
Et puis, alors, le fanzine, alors vous pouvez l'acheter en ligne, sur DriveThru, il y a tous les numéros, d'ailleurs les premiers sont épuisés, mais ça coûte $1 ou $2, hein, quelque chose comme ça. Et c'est aussi un blog, Weird Science, où on retrouve quelques articles en fait qui sont dans leur fanzine, et c'est aussi une newsletter qui nous est envoyée toutes les semaines, où il y a pas mal d'actu, on va dire de la sphère geek indé, quoi. Et surtout rôliste, mais pas que.
Je veux pas vous inviter à regarder forcément l'émission sur YouTube, mais c'est vrai que là, on est sur des images et des graphismes que je trouve absolument dingues. Il y a vraiment de tout. Et il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment magnifiques, quoi. Et sous différents genres. C'est ça qui est cool.
Tout à fait, ouais. Bon, ça part de culture geek au sens assez large, quoi.
Faudrait que je te le vole.
Mais oui, je peux te le prêter.
Je vais finir par avoir la moitié de ta bibliothèque chez moi, mais... Bref,
donc voilà, c'est mon nouveau fanzine préféré. Alors un fanzine, on rappelle à nos auditrices,
c'est un magazine
non professionnel, voilà. Je dirais.
Et ça va de différents niveaux de qualité. On va avoir des choses qui peuvent être assemblées dans un garage avec deux agrafes au milieu, à des choses qui, en vrai, pourraient être quasi professionnelles. Hein. Weird Science, on est pas mal quand même.
J'avais aussi ramené un fanzine que j'ai fait dans mon garage, mais du coup, peut-être on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui.
T'as 2 minutes.
Ouais, ça me paraît un peu court. J'avais pas mal de choses à vous raconter. Par contre...
Très connu cette illustration.
Ouais, parce qu'il y a un artbook qui sort sur les défis fantastiques.
Ah, oh.
Donc tout l'art des défis fantastiques.
Là, on parle
de série Gallimard.
D'une illustration. Ça doit être la série Sorcellerie.
Oui, celle de droite, ouais. John Blanchard.
On a une espèce de sorcier avec une espèce de pendule et une couronne de dragon dans les mains. Si vous avez fait des livres dont vous êtes le héros, vous connaissez forcément cette
John Blanche, c'est, je pense, le pire, en fait. C'était un dessinateur des Games Workshop. Hein. On retrouve beaucoup de ses dessins dans Warhammer, ce qui donne ce côté sale, notamment à Warhammer. Et là, les dessins qu'il a fait pour les défis fantastiques, dont c'était Fighting Fantasy, de ses patrons à l'époque, hein, Ian Livingstone et Steve Jackson, John Blanche a fait des trucs hyper gore, notamment ouais, dans un sorcellerie. On arrive dans un village et on voit quelqu'un qui est découpé en morceaux. Et tous les morceaux de cette personne flottent dans tous les sens. Vous voyez, cette personne est découpée en morceaux. Et moi, quand j'étais gamin, effectivement, ça m'a... Waouh ! Et d'ailleurs, ils ont eu quelques problèmes quand même avec ça.
Sans déconner.
Mais aujourd'hui, c'est resté, ça a choqué des gens, mais ça a aussi inspiré des gens. Rackham Leroux, par exemple, dessinateur qui bosse dans le jeu de rôle à Nantes, il m'a dit son premier dessin qui l'a marqué, ben, c'est la couverture de la Sorcière des Neiges dans les Défis Fantastiques.
En vrai... Je vois exactement.
Donc c'est des visuels
qui
ont vraiment marqué, on va dire, une génération de
geeks et
illustrateurs.
Je connais pas. Ça a l'air très très beau, mais je connais pas.
Je t'en prêterai.
Est-ce que je peux annoncer quelques fous lancements que que j'ai trouvé qu'on l'air bien?
Alors deux minutes.
Ouais, il y a Loin du Feu. Je sais pas si vous avez entendu parler. Ça se présente comme un role-playing grimoire. Édité par Pam Hansel, c'est son deuxième projet. C'est un livre avec quatre nouvelles et il y a quatre scénarios de jeux de rôle adossés à ces nouvelles. Un peu, vous avez un petit peu après chaque nouvelle comment faire jouer en fait cette histoire. Les quatre nouvelles décrivent toute une partie du folklore français. Alors ça va aussi jusqu'au territoire d'outre-mer et donc sont écrite par quatre écrivaines françaises de littérature de genre, alors dont nous trois qu'on a déjà reçus à Angers avec Imaginaire, Claire Duvivier, Katie Stewart et puis Morgane Stankiewicz. Et il y a quatre illustratrices qui sont adossées et puis une éditrice. Donc c'est un projet entièrement féminin. Donc si vous voulez un livre un peu mixte qui part le folklore français avec des visuels aussi, allez voir sur la toile, très spéciaux, on va dire, enfin très particulier, voilà. Je voulais mentionner, je sais pas si vous aimez les giallo, film de un peu l'ancêtre du slasher, mais chez les Italiens, c'est un peu souvent les films de tueurs masqués. Il y a deux jeux de rôle en fait qui sortent sur ce thème. Il y a Lies by Omission qui est en projet sur Gamefound en ce moment, qui est écrit par un couple d'Américains. Et sinon, il y a Blurred Lines qui sort en ce moment en France chez Rabbit Hole. Rabbit Hole, c'est le projet de gens d'Arcane Asylum. Je crois que c'est Mathieu Toussaint et puis le traducteur, comment s'appelle-t-il ? Je me rappelle plus son nom. Enfin bref. Et donc, ils sortent une gamme de jeux de rôle à moins de 15 euros.
Okay.
Et il y en a plusieurs qui sont arrivés là. Il y a eu un fou lancement, puis là, ça arrive en boutique. Et donc, Blurred Lines, c'est un giallo, mais c'est du jeu de rôle solo.
Cool ça. Les jeux de rôle solo, ça devient de plus en... Je trouve qu'on en a de plus en plus, mais sans que ce soit des livres dont vous êtes le héros.
Oui, tout à fait, ouais.
Et c'est très cool.
Et là, il y a un truc assez particulier dans le jeu de rôle, vous devez coller des post-it sur une carte et écrire des choses. Et après, il y a plein de choses qui arrivent et le tueur risque de vous retrouver dans la ville en faisant ça, quoi.
Trop bien.
Est-ce que j'ai le temps d'annoncer des événements aussi ?
Si tu fais très très vite.
Et l'association Imaginaire fait du jeu de rôle Star Wars samedi prochain à la bibliothèque de Saint-Rémy-la-Varenne, dans leur cadre de leur après-midi Star Wars. C'est entre 5 à 7, donc appelez la bibliothèque pour vous inscrire. Et puis sinon, ça arrivera beaucoup plus tard, donc j'aurai le temps de vous en reparler.
Et ben, mince, je voulais le monter gentiment. J'ai lancé le générique trop tôt. Il va être l'heure pour nous de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
Bien sûr.
Merci Nolwenn.
De rien.
Merci Romain d'être venu également. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour parcourir
peut-être
et arpenter ensemble les voies du scénario.
Salut.